Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez entendre une histoire que vous connaissez peut-être déjà. On avait parlé de l'appât ou encore du trio diabolique. En décembre 1984, Jean-Rémy Sarrault a fait partie de ce trio qui aura tué deux hommes pour une poignée de billets. Condamné à perpétuité à l'âge où certains passent le permis, sa jeunesse gâchée aura au moins débouché sur une seconde vie. Bonne écoute. Si la vie de Jean-Rémy était un film, ça ne serait pas un film de gangster. Pas de ceux où une équipe de pros se réunit pour faire un coup net et sans bavure, avec une petite maquette des lieux et des déguisements. C'est plutôt une histoire absurde, qui serait presque risible si la fin n'était pas si tragique. Une agression où rien ne se passe comme prévu. Et qui tourne au cauchemar.
Le scénario, il se met comme ça en place. Donc Laurent était sur l'idée qu'il y avait un coffre-fort. Donc on bouscule un peu pour savoir où est ce fameux coffre-fort. Et apparemment, de toute évidence, il n'y avait pas de coffre-fort. Et puis, comme on était des pieds nickelés, le mec s'est aperçu que Valérie... Et Laurent, ils étaient en cheville, quoi. Ça s'est vu, donc la solution, c'est d'éliminer ce type-là, sinon on est mort. La décision se prend comme ça.
Tu le tues ?
Je le tue. On s'en va. Comme il a été dit, effectivement, on va en boîte de nuit, au Martins.
Derrière la petite souris, sommeillait un démon. On a peine à admettre que cette nymphette ravissante a deux assassinats sur la conscience.
Alors j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement, elle était très jolie, très beau visage.
Valérie ouvre la porte. Ses deux copains surgissent, ligotent, bâillonnent, torturent, volent l'argent liquide et les objets de valeur.
À la lecture du verdict, Valérie Subra s'est effondrée. C'est pas possible, murmure-t-elle.
Le verdict vient de tomber dans le procès des diaboliques. Le trio est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec des peines de sûreté incompressibles de 18 ans pour les deux garçons et 16 ans pour la jeune femme.
L'instant où j'ai tué pour de l'argent.
Une peine de perpétuité, ça laisse du temps pour réfléchir. Et quand Jean-Rémy Sarrault a remonté le fil de ses souvenirs pour comprendre ce qui avait pu lui arriver, il semblerait que les ennuis aient commencé presque dès le berceau.
Mon enfance, c'est beaucoup de questionnements parce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas, avec le temps et les recherches, j'ai appris que j'étais ce qu'on appelle un bâtard puisque je suis l'enfant de l'amant de ma mère. Ma mère était une femme de 20 ans qui a été mariée à un homme de 40 ans pour des histoires d'héritage. En Bretagne, ça se passe un petit peu comme ça. Et mon père, donc, était son amant, son amoureux. Et donc, elle a eu un enfant avec lui. Et je sais qu'elle a été rejetée par sa famille. Et voilà. Mais en dire plus, ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Mais le reste, je sais pas. Je sais qu'à l'âge de 4 ans, j'ai été récupéré par mes grands-parents paternels. Parce qu'à l'époque, un homme seul ne pouvait pas récupérer un enfant. Comme mon père était seul, il ne pouvait pas me récupérer. Donc, c'est ses parents, mes grands-parents, qui m'ont élevé jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, 8 ans, quoi.
T'as grandi où ?
J'ai grandi chez mes grands-parents. J'ai grandi avec de sublimes grands-parents. Tout ce que j'ai eu de bon en moi, c'est ma grand-mère et mon grand-père qui me l'ont transmis. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents géniaux.
Et si tout avait continué comme ça, ce serait probablement un podcast sur les tartes de sa grand-mère et sur les bienfaits de l'air de la campagne. Mais comme vous le savez déjà, ça n'est pas ce qui est arrivé.
Après, vers 9 ans, mon père m'a pris avec lui à Paris, parce qu'il avait une compagne. Et là, Paris, ça a été une découverte pour moi. Donc, au lieu d'aller à l'école, j'ai commencé à découvrir le métro, comment ça fonctionnait. Tout ce que, quand on vit à la campagne, on connaît pas. Ça va des immeubles avec un ascenseur, évidemment, au métro, au monument, au parc. Un jour, forcément, il y a eu des lettres qui sont arrivées. Vous n'aviez pas inscrit votre fils à l'école, au fait. Mon père m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Bon, la décision a été prise de mettre dans une pension. Genre, on vient te chercher le vendredi soir et on te ramène le lundi matin, sauf que très vite, on a oublié de venir me chercher le vendredi soir. Donc très vite, j'ai fait le mur et c'est là que tu fais le mur avec deux, trois loulous qui sont dans, dans la même catégorie que toi, entre guillemets, quoi, et puis roule, quoi. Et puis bon, bah, t'es ramené par la gendarmerie une fois, alors c'était pas des trucs, c'était parce qu'on rentrait gratos dans les cinémas ou, tu vois, des petits trucs comme ça, quoi. Après, bah, t'es un peu plus grand, donc ça commence par voler des mobilettes. Après, tu les repeins, puis tu les revends. Puis après, à 14 ans, je me suis retrouvé dans la rue Saint-Denis. J'allais chercher les sandwichs, je fournissais les pétards ou les doses de cam pour les tapins. S'il y avait un mec qui faisait du foin, on avait autorisation de prendre ses bijoux et de lui filer une bonne raclée. On trouvait ça très rigolo, on se faisait de l'argent. Voilà, c'était... Ça, j'avais 14 ans, 14-15 ans. Quoi.
T'étais un bagarreur ?
Ouais. Et après, tu fournis des motos pour des gens qui font des bracos.
Ah ouais, t'étais dedans, vraiment.
Fais des petites conneries, quoi. Puis un jour, il manque quelqu'un, on te connaît, t'es là, viens avec nous. Donc j'ai fait... Alors, au début, c'était des supérettes que les mecs, ils faisaient. Braquer les supérettes. Donc voilà, ça marche, t'as plein de thunes. Voilà, à 16 ans, à l'époque, à 16 ans, t'avais de l'argent, tu pouvais avoir un studio, on ne demandait pas de papier, du moment que tu payais en liquide, tu passais... Et en plus, comme j'habitais à Saint-Mandé, c'était vraiment très huppé, quoi.
Pour la première fois de sa vie, Jean-Rémy est maître de son destin. L'argent facile, le frisson, l'indépendance... Jusqu'à ce qu'il pique la moto qu'il ne fallait justement pas voler.
Je la vole à côté de Vincennes. Et c'était la moto de Laurent.
Laurent Attab, qui le premier va lui souffler l'idée d'un cambriolage chez des connaissances du sentier.
À Saint-Mandé, on habitait, donc derrière l'église, il y a un square. Et c'était notre lieu de rendez-vous, de rencontre, tu vois. Et donc, le soir, voilà, il y a ce... Laurent, il me dit, viens me voir, il me dit, on m'a volé ma moto, elle est comme ça, on m'a dit que peut-être tu pouvais savoir quelque chose. Ouais. Et je lui ai rendu sa moto et on est devenus potes, quoi.
Tu lui ramènes sa bécane.
Ouais. Nickel. Avec le plein et tout. Gentleman.
Qu'est-ce qu'il te dit ?
Voilà, lui, il n'est pas du tout du même monde que moi. Il n'est pas du tout du même univers que moi. Lui, il est, ses parents sont fortunés. Enfin, il habite une grande maison bourgeoise. C'est vraiment... il n'a pas de... Mais il a l'envie de se faire passer pour un petit loulou, quoi. Donc voilà, c'était assez rigolo, parce qu'avec lui, on a découvert un autre univers, forcément. Il avait ses tables dans certaines boîtes de nuit, ses tables dans certains restaurants à Paris. Enfin, il avait des entrées que moi, j'avais pas, quoi. C'est lui qui m'emmène dans son monde, parce que je suis quelqu'un de curieux. Donc du coup, la découverte, c'est... C'est un univers, même si t'as un peu d'argent, moi comme j'en avais pas, je dépensais pas mon argent, j'ai jamais acheté des montres de luxe ou des trucs ou des machins, j'ai toujours resté, voilà quoi. Et là c'est les grosses Mercedes, c'est les montres Rolex en or, c'est un autre univers.
D'où
quoi.
Il sort son argent ? Ses parents ?
Son père, ouais.
Le père de Laurent Attab a bâti sa fortune en fabriquant des sweatshirts dans le quartier du Sentier, à Paris. Voitures de sport italiennes, grands restaurants, nightclubs. Laurent mène ce qu'on appelle la grande vie.
Et du coup, moi, je ne l'emmène jamais dans mon monde parce que je dis que ce n'est pas du tout son truc, quoi.
Tu continues, toi, à faire des braquages, des...
Ouais, il faut bien... Ça coûte beaucoup d'argent, cette vie. Quand tu rentres dans un autre monde, tu peux... T'es obligé de changer tes fringues, t'es obligé de changer... Tu peux pas rentrer dans certains restaurants, comme ouais, je m'habille un peu, voilà, là, non, bah, il faut te saper, quoi. Faut te saper, donc l'argent que je gagnais, en fait, était assez vite dépensé.
Si Jean-Rémy a souvent été accusé d'être celui qui a corrompu son ami, en raison de son passé, en raison de ses origines modestes, c'est parce que personne n'a jamais compris pourquoi Laurent Attab aurait pu s'embarquer avec lui dans une histoire pareille.
Laurent, c'était quelqu'un qui était très... Vis-à-vis de son père, il était mal parce que son père, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a tout construit, il arrivait à se faire... Donc Laurent avait un rêve de réussite et pour ça, il lui fallait beaucoup d'argent. Et donc, il vient me voir et il me dit, voilà, je connais telle et telle personne dans le sentier. Je sais qu'ils ont des coffres forts chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup de liquidités. Ça commence comme ça.
C'est quoi la proposition? C'est quoi l'idée?
Eh ben, c'est de lui dire, voilà, on vous indique des mecs dans telle boîte, vous draguez tel mec, une fois que vous êtes chez lui, voilà, vous prenez les renseignements, savoir comment c'est. Et puis nous, une fois qu'on avait ces renseignements, on mettait au point un plan pour aller cagouler, armer, et j'étais débarqué chez eux.
Pour que le trio soit au complet, il en manque une. Valérie, 18 ans, sulfureuse. Elle se voit confier le rôle de la tentatrice, ou plutôt d'appât. Quasiment élevée au rang d'icône, lorsque Paris Match fera sa une avec une photo d'elle en t-shirt mouillé et moulant.
Valérie, c'est la petite amie de Laurent. Une des petites amies de Laurent. Je crois que c'est la plus jeune, elle vient d'avoir 18 ans, elle. Elle est sympathique, belle nana, rigolote, mais tous, on n'est pas très réfléchis. Si évidemment l'un de nous avait été plus réfléchi que les autres, il y aurait eu un moment, il suffisait que l'un dise stop et on n'en serait pas arrivé là.
Ce moment, c'est un peu comme le contrôle des billets avant l'embarquement d'un avion. La dernière chance de se retourner et de dire « Non, finalement, j'y vais pas ». Ça doit exister, des gens qui renoncent. Mais dans ce podcast, on n'en a jamais vu.
Elle laisse la porte ouverte pour que nous, on puisse les surprendre tous les deux. Et donc, on les baïonne, on les attache, on lui demande où est le coffre... Le scénario, il se met comme ça en place. Donc Laurent était sur l'idée qu'il y avait un coffre-fort. Donc on bouscule un peu pour savoir où est ce fameux coffre-fort. Et apparemment, de toute évidence, il n'y avait pas de coffre-fort. Et puis, comme on était des pieds nickelés... Le mec s'est aperçu que Valérie et Laurent, ils étaient en cheville, quoi. Ça s'est vu, donc la solution, c'est d'éliminer ce type-là, sinon on est mort. La décision se prend comme ça.
Tu le tues?
Je le tue, on s'en va. Comme il a été dit, effectivement, on va en boîte de nuit, au Martins.
De l'extérieur, je crois qu'on a toujours tendance à surestimer le remords qu'un homme peut éprouver pour son crime. Surtout quand il est question d'argent. Parce que quand il est question d'argent, j'imagine que certains se disent c'est une bonne raison de tuer, c'est pas vraiment un meurtre, c'est pour le pognon. J'en voulais pas à cette personne, j'en voulais à son argent. Mais de là à recommencer... Là, il y a un monde.
Et là, on me dit, j'ai un nouveau truc. Et là, il y a discussion, quoi. Parce que je lui dis, après, quand il se passe un jour, deux jours, trois jours, tu es un peu plus dans la réflexion que dans l'action. Et là, tu sais que voilà quoi, t'as tué pour 3 francs 6 sous, on a volé quoi, 2, 3 Rolex, un peu d'argent liquide, que dalle quoi. Donc là, la motivation, c'est de me dire, c'est du sûr, ce mec il est blindé, il y a un coffre, il est liquide, ta. Donc d'entrée de jeu, je lui dis que s'il n'y a rien, je me casse.
Donc le deuxième, comment ça se passe? Il y a de l'argent, il y a un coffre,
il y a pareil, quoi? Ouais, il y a de l'argent, il y a plusieurs coffres. Plus que le premier, évidemment, mais c'est pas non plus ce qu'on attendait.
Et pourquoi vous ne le laissez pas en vie?
Pareil, pourquoi? Parce que Valérie dit à Laurent... je lui ai donné mon vrai nom, mon vrai numéro de téléphone. Puis les clés. Laurent me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, tu fais ce que tu veux, moi. Donc c'est lui qui s'en est chargé cette fois-ci.
Un meurtre comme une corvée. Presque une case à cocher sur la liste des choses à faire. Et à l'approche de Noël, une troisième attaque se prépare. Mais la police va remonter la piste de Valérie Subra dans le carnet d'adresses des deux victimes. Elle leur a donné son vrai nom. Et c'est comme ça que le trio diabolique sera heureusement arrêté juste avant de repasser à l'acte. On est le 20 décembre 1984.
Valérie se fait arrêter le matin. Et Laurent m'appelle dans l'après-midi en me disant « Tu peux passer chez moi, prendre ma voiture et aller récupérer Valérie ce soir parce que je n'aurai pas le temps d'aller la chercher. » Ok. Quand il m'appelle, Laurent, il est dans un restaurant. Et la police est déjà dans le restaurant. Mais ils attendent parce qu'ils attendent Jean-Rémy. Et donc, c'est à Bastille que je dois récupérer Valérie, à l'appartement de sa mère. Parce qu'arrivé à Bastille, c'est là que je me suis fait saucissonner. Est-ce que j'ai eu le temps de garer la voiture ou pas? Ça a été d'une rapidité... Je me suis rapidement retrouvé avec un flingue dans la bouche, en fait. Je m'en rappelle.
À quel moment tu prends conscience de ce que tu as fait? Quand on te pose des questions?
Concrètement, ouais. C'est pour ça que j'ai rien nié. Ça sert à rien. Une fois que la criminelle vient taper à ta porte, c'est mort, quoi. Ils viennent pas par hasard, ces gens-là. S'ils viennent, c'est que... Voilà. Donc, je raconte le truc qui est très vite en contradiction, puisque très vite... Laurent nie toute implication en disant que c'est moi qui l'ai manipulé, qu'il avait même raconté un moment que j'ai menacé la vie de ses parents. Enfin, ça a été une instruction très difficile.
3 ans d'instruction, 3 ans. Et pourtant, l'intérêt médiatique pour l'affaire ne faiblit pas. Le 8 janvier 1988, les photographes se pressent pour voir en vrai la beauté mortelle de l'appât. Le procès est un choc pour les 3 accusés.
Horrible. Je m'attendais pas à ça. Entre le moment où on est incarcéré et le moment où arrive la télévision en prison, il se passe quelques années quand même. La télévision, concrètement prison, c'est 87, donc c'est juste avant le procès. Donc je commence à découvrir l'ampleur de cette affaire par la télévision. Et j'ai cette image le premier jour où on arrive dans la salle d'audience, la porte s'ouvre. Et là, on s'est fait bombarder de flashs, mais... C'était impressionnant, vraiment, vraiment impressionnant. Quand tu es tout seul dans ta cellule, la hauteur de tout ça, tu le vois pas. Tu vois que la hauteur des murs. Hein.
Le procès, vous êtes tous les trois dans le box. Ouais. Vous parlez, vous vous regardez, qu'est-ce qui
non,
se passe?
Il n'y a pas de regard. C'est pas chacun ni l'autre, mais chacun dans son monde.
Toi, tu dis toujours, la depuis même chose. Le début, la même chose.
Ouais.
Est-ce que lui va varier? Est-ce que lui va dire à un moment où j'y étais, où j'ai fait ça? Comment ça va se passer?
Il a dit un truc au procès qui... Il a quand même dit à un moment que Valérie n'y était pour rien et qu'il a dit ça. Après, lui, il y a ses parents dans la salle, quoi. Il y a ses parents dans la salle.
Donc, le responsable, c'est toi.
En plus, bon, ça colle un peu. C'est-à-dire, concrètement, lui, il est fils à papa, tout allait bien pour lui. Moi, je suis un bâtard quelconque, personne ne sait d'où je viens, qui je suis, parents, pas parents. Ça va bien, quoi.
La condamnation tombe.
Perpétuité avec 18 ans de sûreté pour Laurent et moi, et perpétuité avec 16 ans de sûreté pour Valérie.
Ça cogne fort.
Avec Valérie, ils ont été sévères. Mais comme le procureur a basé tout son truc en disant « si elle n'ouvre pas la porte, eux rentrent pas », on ne pouvait pas...
Qu'est-ce que tu auras envie de dire à Laurent Attab ?
Bonne continuation à toi.
Et à Valérie Subra ?
Elle, je sais que ça va bien pour elle. Donc, je suis très content pour elle. Je sais qu'elle s'est mariée, qu'elle a deux petites filles, que tout va bien pour elle.
Donc, on peut poursuivre sa vie après ça.
On peut poursuivre sa vie. Sachant qu'on est tombé jeune, je regardais les chiffres par an. Il y a à peu près 130 à 140 condamnations à perpétuité par an. Sur ces 130 condamnations, 20 ans après... Il y a 5 personnes qui sont susceptibles de sortir. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Mais, quand il est sorti, il a continué et il continue à s'appeler Jean-Rémy Sarraud. Et quand on cherche son nom sur Internet, on découvre ce qu'il a fait. Si longtemps auparavant. Donc, ses copains du club moto lui disent « Tu peux pas rester avec nous ?» La société où il a trouvé un boulot découvre ça et lui dit « Ben, on ne peut pas vous garder. » Donc, il est condamné à vivre toute sa vie avec ça. Il y a des gens qui diront « Il l'a bien mérité, attends. » Pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, il ne vivrait pas avec ça? Puis, il y en a d'autres qui vont plutôt penser que une fois qu'il a purgé sa peine, qu'il est capable de parler comme il parle de ce qu'il s'est passé, avec beaucoup de regrets, beaucoup d'émotions. Certains pensent qu'il a le droit de revivre une vie normale. Et vous en pensez quoi ?
Retrouvez tous les épisodes de L'Instant Où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.